Quand je vois qu'il y en a qui se préoccupent de ma vision, c'est bien. Donc il y a des anges dans cette maison.
Alors, vous avez remarqué ce matin qu'on avait la première aux Corinthiens. Le début, disons. Vous l'avez fait exprès. Bon, je voulais simplement revenir un petit peu brièvement sur la question de baptême, plus de petits points. Hier, j'évoquais en effet le lien étroit que Paul établissait entre le baptême et la mort du Christ. Ce qui me suggère deux remarques complémentaires. Aujourd'hui, le baptême se donne le plus souvent en aspergeant le front des catéchumènes. Il est clair que ce n'était pas la pratique initiale des premiers chrétiens, qui était la pratique donc de l'immersion. Le baptême, donc baptême veut dire déjà l'air plongé. Alors c'est vrai que quand on met les quelques gouttes sur le front, ça ne fait pas vraiment une plongée, enfin, sauf pour ceux qui n'aiment pas du tout l'eau. Donc c'est clair que si vous voulez être paulinien, normalement tous les baptêmes vous devriez les donner par immersion. Alors en tout cas moi je sais que je le fais le plus souvent possible auprès des enfants. C'est extrêmement intéressant de constater la réaction des parents, et en particulier des mères, qui sont toujours paniqués. Il n'y a rien à faire, l'eau ne va pas être assez chaude, je vais le laisser trop longtemps dans l'eau, est-ce qu'il va en sortir? C'est immédiat. Donc vous comprenez très très bien, immédiatement, qu'il n'y a rien de plus prégnant, de plus probant, que pour montrer que le baptême est un passage par la mort et la vie. Alors évidemment, vous ne laissez quand même pas trop longtemps dans l'eau et dans l'eau bouillante. C'est vraiment très, très impressionnant de voir la réaction. Alors à la plupart des mères, vous savez, elles font quand les enfants prennent un bain, elles arrivent avec un thermomètre qui se plonge dans l'eau. Vous savez, on peut être sûr que l'enfant ne sera pas ébouillanté. Bon, c'est assez amusant. À l'inverse, une fois j'ai fait un baptême d'un enfant en bas âge, et chez André Gouze d'ailleurs, et à l'abbaye de Sylvanès, et par immersion, et par contre, tout était absolument glacé. Bon, ça a produit aussi un même genre d'effet d'ailleurs, mais pas tellement chez la mère, qui ne s'est pas rendu compte, elle pensait à autre chose. C'est André Gouze qui m'a dit tout à coup, tu vas te baptiser par immersion? Ben, je dis oui, je pensais qu'on faisait toujours comme ça chez toi. Mais ni dans l'eau froide, ben, je dis donc il sera froide. Donc on l'a baptisé dans l'eau froide. Voilà, alors donc ça vous imaginez donc effectivement que pour illustrer par exemple la parole de Romains 6, 3, 4, c'est vraiment le baptême par immersion qui est le plus parlant, quoi, très immédiatement. Il est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Donc, bien entendu, pour un tas de raisons, le baptême avec aspersion est le plus pratiqué. Et il a sa justification, mais les autres. Hein, immédiatement, si vous pensez par aspersion, vous pensez à laver. Là, on lave. Bon. Donc, vous pensez immédiatement à laver le péché originel. Alors, je ne veux pas dire que le péché originel ne soit pas tout à fait un thème paulinien. Encore qu'il faut bien entendre en Romains 5. Mais c'est sûr que on comprend que dans les Actes des Apôtres, par exemple, au chapitre 8, le nu qui est baptisé, tiens, il y a de l'eau. C'est vrai que dans les airs, on n'en trouve pas toujours. Ah tiens, il y a de l'eau, profitons-en pour être baptisé. Il faut certainement profiter là-bas quand ça se présente. Voilà. Donc c'est la première remarque que je vais faire. C'est sûr que vous le verrez si un jour vous avez l'occasion d'administrer des baptêmes. Et si vous pouvez le faire par immersion, en particulier pour les enfants, c'est extrêmement parlant. Et je le vois quand je prends un enfant et que je le plonge dans l'eau. Je regarde souvent l'assemblée, c'est très intéressant. Vraiment, il n'y a plus besoin d'expliquer. Je me souviens que la première fois que j'avais presque imposé à une mère de famille, elle était paniquée. Après, elle m'a dit, il n'y a plus besoin d'expliquer Romains 6, 3, 4. C'est évident que c'est un passage par la mort et la résurrection. Si en plus après, vous prenez, comme de temps en temps je le fais moi aussi, on prend l'enfant, on le met sur l'autel pour une offrande, je ne sais pas, par exemple, à la Vierge, je ne sais pas quoi, vous le mettez sur l'autel comme un Isaac sur le bûcher, là encore, ils comprennent. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne 1000 explications. Hein. L'enfant, il est offert. Bon. Donc ça, c'est la première remarque, la pratique du baptême par immersion, qui est la pratique primitive, et ça s'explique fort bien qu'on compte tenu. Enfin, on voit qu'il y a un lien très étroit entre la réflexion théologique et la pratique, enfin là. La deuxième remarque que je voulais faire sur ce baptême, c'est son réalisme. Je vais employer un mot, j'en ai pas de meilleur. Et c'est plus généralement sur le réalisme de la théologie de Paul, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le chapitre 10 de la première aux Corinthiens à propos de la communion, de l'Eucharistie. Les théologiens des religions ont fait remarquer qu'il existait dans les traditions religieuses la thématique de la mort de la pétrant, de la mort avec son Dieu. La thématique paulinienne du catéchumène qui meurt avec le Christ et dans le Christ, finalement, aurait des antécédents tout à fait classiques et dans le monde religieux de l'époque. En particulier dans les religions à mystère, il y a une espèce de mort symbolique du candidat, enfin de l'impétrant. Que ce soit le cas dans les traditions religieuses de l'époque, je ne le nie absolument pas. Que maintenant il s'agisse de la même chose dans l'esprit de Paul, je le nie parfaitement. Que Paul et la tradition chrétienne aient pu recevoir quelque chose de cet ordre-là à travers certaines autres traditions religieuses, pourquoi pas, encore une fois, ce n'est pas un terrain vierge dans lequel s'étend le christianisme. Mais la différence, elle est grande, et elle est effectivement dans ce réalisme dont je parle. C'est-à-dire que le catéchumène ne fait pas comme si il était associé à la mort et à la résurrection du Christ. Il est réellement associé, il y participe. L'expression en Christ, dans le Christ, dans le Seigneur, il y en a plusieurs chez Paul, manifeste profondément ce réalisme. Et donc le catéchumène est pleinement participant de la mort et de la résurrection du Christ qui a lieu une fois pour toutes. Et qui n'est pas renouvelée, enfin, elle est renouvelée d'une certaine manière, mais elle n'a eu lieu qu'une fois. Et je dirais, il y a presque l'abolition du temps. Le catéchumène se trouve profondément et pleinement associé à cette mort et résurrection du Christ qui produit encore ses effets de tout temps. Et donc ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas une représentation symbolique. En tout cas, ce n'est absolument pas comme ça que manifestement l'exprime Paul. C'est une réalité, je ne peux pas dire les choses autrement. Il y aura quelque chose du mort, je vous le disais, à propos de l'Eucharistie. Et c'est à mon avis, je souligne ce point, parce que j'ai l'ennui de sentiment, un point de divergence fondamentale avec la tradition réformée, en particulier pour l'Eucharistie. Ce n'est pas pour le baptême, mais peut-être pour l'Eucharistie. Paul le dira comme ça, en particulier dans les Corinthiens, le Christ est réellement présent. Ce n'est pas. Je ne joue pas l'Eucharistie quand je la célèbre. Je m'insère, quelle que soit la distance temporelle, dans l'Eucharistie telle qu'elle a été célébrée une fois pour toutes. Enfin, dans cette mort et résurrection du Christ. Dans la première scène, j'y participe. Alors c'est évidemment, ça n'a rien à voir avec vous voyez par exemple dans les rituels religieux des renouvellements, enfin il y avait aujourd'hui on va se jouer une petite Eucharistie. hein, entre guillemets, évidemment. On rejoue la scène, si j'ose dire. Scène, C-E, accent grave, N-E, S-C-E, accent grave, N-E. En français, on peut jouer sur les mots. On va jouer la scène aujourd'hui. Hein. Ben non, non. Précisément, je ne joue pas, je la célèbre. Je me retrouve associé à cette scène première et éternelle. Donc le baptême, pareil. C'est la condition pour Paul de notre salut. Si simplement je suis là, je médite de loin le mystère du Christ qui est mort et ressuscité pour moi, voilà, alors tiens, il a fait ça, bon, moi je vais faire la même chose, parce que s'il l'a fait, c'est que j'ai sans doute intérêt à refaire. Non, je ne suis pas sur une scène. Je participe entièrement. Je ne sais pas si je me fais comprendre profondément, il y a quelque chose de très différent. Et d'une certaine manière, je le dis, il y a une abolition du temps. Alors ça c'est typique de Paul, hein, ce réalisme. Il le manifeste de plusieurs manières, et quand il vous dira dans le Christ, c'est vraiment dans le Christ, comment dire, c'est pas une manière de parler. Bon, je peux pas vous le dire, j'ai peut-être mes mots qui me manquent, mais je vais vous le dire au mieux autrement. Mais retenez que chez Paul, il y a ce réalisme très profond de la relation au Christ, qui est une relation vivante, actuelle, et qui n'est pas simplement un vague souvenir. Ah, je me souviens de mes parents décédés. Oui, c'est vrai, mes parents sont décédés, c'est vrai. Je me souviens de mes parents décédés, bon. Mais je crois qu'il y a quand même une relation avec eux parce qu'ils sont vivants, de quelque autre manière, certes. Mais en plus, en Christ, je me trouve comme conjoint complètement à cette réalité du Christ, que je ne veux pas tout à fait faire avec mes parents pareil. Voilà. Bon, j'essaie de vous dire quelque chose qui est essentiel, hein, qui est profondément paulinien. Moi qui ne suis pas du tout, même si je suis dominicain, un thomiste averti, parce que ça n'a jamais été mon monde, il se trouve que j'ai souvent remarqué que le réalisme thomiste s'harmonisait profondément avec la théologie paulinienne. Et qu'il était rare que les bons thomistes ne soient pas aussi des bons pauliniens. Voilà. Bon, je le constate, hein. Moi je suis un peu paulinien et très mauvais thomiste. Voilà. Donc je voulais quand même souligner, parce que c'est quand même des points de théologie, et puis qui sont extrêmement importants encore une fois pour concevoir. Vous voyez, par exemple, un jour, j'étais à l'école biblique de Jérusalem, je m'en souviens toujours. Donc ça remonte à l'école biblique de Jérusalem entre 80 et 83, ça remonte à 25 ans. Et bon, il y avait des étudiants de toutes sortes, et des étudiantes aussi à l'école biblique. Et je me souviens d'une étudiante, c'était une sœur américaine. Gros débat un jour, ou un soir, je ne sais plus, sur la question de savoir si les femmes pouvaient présider l'Eucharistie. Je peux vous dire qu'avec une sœur américaine, c'est pas facile, hein. Et c'est tout à fait un autre monde. Donc, j'étais avec cette sœur et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que, évidemment, elle était profondément pour. C'était pas une féministe tout craint, mais enfin, elle était quand même bien de son pays. Et puis, je l'aimais bien, elle était tout à fait charmante. Et je suis resté persuadé que, autant je comprenais qu'il y ait des femmes pasteurs dans la tradition protestante, et j'ai concélébré, ça m'est arrivé avec des femmes pasteurs, enfin, je concélébré entre guillemets, hein, j'ai célébré avec des sacrements de mariage, par exemple, bon, des choses comme ça. J'ai pas concélébré des messes, évidemment. J'ai eu des célébrations communes avec. Et autant je comprenais donc qu'il y a des femmes pasteurs dans la tradition réformée, autant je reste pour ma part un peu convaincu que, vu ce réalisme eucharistique dont je parle, et qui n'est pas simplement une présentation théâtrale de la scène, autant je pense que dans la tradition catholique, il y a un problème. Et justement, ce n'est pas du tout pareil. Parce que c'est à cause de ce réalisme en question. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je ne l'ai jamais potassé à fond, mais j'avais la forte impression en discutant, et ça fait donc vous dites déjà 25 ans, mais je m'en souviens encore avec cette sœur, que son point de vue, bien qu'elle fût une sœur tout à fait catholique américaine, son point de vue était quand même marqué par l'ambiance américaine et avec l'importance chez eux de la représentation protestante. Et donc, alors j'ai regardé si cet argument était utilisé dans les débats, sur ce réalisme de la représentation qui n'a rien à voir, à mon avis, dans la tradition catholique par rapport à la tradition réformée. Bon, je ne l'ai pas toujours trouvé. Donc je vous dis, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Cela dit, sans aucune mise à l'écart des femmes. Hein. C'est pas de ça dont il s'agit. Bon, je reviens à mon sujet. Je voulais parler de ce réalisme qui me semble extrêmement important et typique de Saint-Paul et sans doute, au-delà de lui, de la tradition catholique. Donc j'en étais arrivé à ce fameux langage de la croix. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, et pour ceux qui se sauvent pour nous, il est puissance de Dieu. Alors c'est intéressant que Paul se mette à parler de langage de la croix. C'est une expression quand même assez extraordinaire, le langage de la croix. On aurait pu mettre la croix, simplement. La croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent pour nous, il est puissance de Dieu. À travers le langage de la croix, c'est d'abord et effectivement le mystère de la croix qui est visé. Mais Paul en parle ici en termes de langage. Et parce que, effectivement, je vous dis, il est confronté encore une fois à un monde où la parole est reine, et il va souligner que l'une des dimensions de ce mystère de la croix, c'est d'avoir sa propre logique. Et je crois que derrière le mot langage, tout ça, il y a logos. Ce mystère a sa propre logique, qui d'une certaine manière échappe à toute logique, en tout cas à toute logique humaine. Donc quand il emploie le langage de la croix, il contemple le mystère de la croix sous une dimension particulière. Celle de l'effet que ce mystère a sur le langage, sur la manière de s'exprimer, évidemment ça va aussi au-delà. Le langage imprègne profondément nos attitudes, nos manières de penser, etc. Donc il va essayer de souligner un peu les conséquences de ce mystère de la croix, en particulier sur le plan du langage. On va voir que ce n'est pas simplement sur ce plan du langage. Finalement, le mot langage de la croix ici a une connotation très large. C'est toute l'attitude des hommes, la vie humaine. Donc s'il avait parlé simplement de la croix, on aurait contemplé le mystère de la croix simplement. Là, en parlant du langage de la croix, il veut parler vraiment de ce mystère de la croix, mais il a contemplé à travers toute la vie humaine. Et arrive le mot folie. Le langage de la croix est folie. Il faut entendre le mot folie, évidemment, pas dans son acception aujourd'hui psychiatrique. Folie, c'est comme ce que tu racontes est une folie. C'est dans le terme, on est dans l'espace du langage, quand même. Ce que tu racontes une folie, c'est ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas debout. Ça n'a pas de logos, de logique interne. Voilà, c'est ça, quand on dit quelqu'un, il dit des bêtises. Bon, ça n'a pas de consistance, de cohérence. Donc le langage de la croix est incohérence, si vous voulez. Hein. Pour ceux qui se perdent, alors évidemment, ça veut dire qu'ils se perdent parce qu'ils refusent d'en reconnaître la cohérence. Mais pour ceux qui se sauvent, pour ceux autrement dit qui acceptent d'entrer dans ce mystère, dans ce mystère déroutant, il est puissance de Dieu. Alors, Paul va appuyer sa démonstration, mais vous pouvez constater que ça n'a pas un effet extraordinaire. Il va appuyer sa démonstration sur des paroles du livre d'Isaïe. Mais finalement, ces paroles sont peu exploitées. Parfois, quand il fait référence à l'écriture, il est un très bon exégète, il va dérouler le fil, si je peux dire. Enfin, il va vraiment suivre le fil. Ici, la parole, les paroles citées, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. je la rejetterai. Où est-il le sage, où est-il l'homme cultivé? Bon, c'est juste pour montrer que cette attitude de Dieu, étonnante, elle n'est pas née avec le Nouveau Testament, avec la mort et la résurrection du Christ. Cette logique, elle existait déjà. Bon, ça sert simplement à montrer cela. Ce n'est pas, encore une fois, un argument qu'il va utiliser et déployer dans toutes ses possibilités, ces versets d'Écriture. Ça arrive souvent chez Paul. Les versets d'Écriture lui servent pour montrer que rien de nouveau sous le soleil. Si je peux m'exprimer ainsi. Ça avait déjà été dit. Bon, vous ne l'aviez peut-être pas noté, mais ça avait déjà été dit, en particulier par le prophète Isaïe. L'attitude déconcertante, illogique de Dieu. Alors c'est vrai qu'on peut penser à des tas de... Je pense en ce moment, par exemple, à Saül, là, quand Saül est choisi. Saül ou David, là, le 8e, 7e ou 8e en français. C'est David.
David.
Oui, c'est David, le 8e. Et celui qu'on n'attend plus, quoi. Qu'on oublie, qui est le dernier. Bon, voilà, c'est... Et ça commence déjà dès Caïn et Abel, parce que Caïn et Abel, c'est justifié, là, que l'une offrande est meilleure que l'autre, etc. Mais c'est déjà déroutant, voyons. Donc cette attitude déroutante de Dieu, elle est... On peut trouver 1000 exemples dans l'Ancien Testament. Bon, voilà, simplement, Paul nous dit, ce que je vous dis là... Si vous y avez fait attention, ben c'était déjà vrai depuis l'Ancien Testament. Je soulève pas un lièvre complètement nouveau, là. Mais ça ne lui sert pas plus, là. Encore une fois, il y a des citations qui lui servent beaucoup plus, qui sont essentielles à son argumentation. Ici, je crois que c'est juste un appui. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Alors, voyez comment maintenant, en fait, ce sont deux mondes qui s'opposent. C'est vrai, si j'ose dire, c'est la sagesse et la folie, mais c'est Dieu et le monde. Derrière, il y a autre chose. Ici, Paul nous dit, Dieu n'a-t-il pas parlé de folie, la sagesse, il ajoute, du monde. Donc c'est toute une logique, ce sont deux logiques. Je fais exprès d'employer le mot logique, parce que dans mon logique, il y a un mot logos, et c'est un mot important dans ces chapitres. Il y a deux logiques différentes, la logique du monde et la logique de Dieu. La logique du monde, Paul va la déployer au verset 21. Le monde, voilà, vous voyez, il n'avait pas été question jusqu'à maintenant, hein, vous voyez, le terme le monde intervient maintenant. Le monde par le moyen de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse humaine, la sagesse philosophique, celle qu'enseignent les philosophes de l'époque. Paul ne nie pas que ce soit une forme de sagesse, hein, quand même. Le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. Alors les gens, ça m'étonne un peu, les commentateurs ont du mal ils tergiversent sur ce que peut être cette sagesse de Dieu. Moi, quand je lis un petit peu plus loin, pour ceux qui sont appelés juifs et grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Je me dis ici, c'est déjà le Christ. Et donc je lis ce verset 21 ainsi, le monde par le moyen de la sagesse n'a pas reconnu Dieu dans le Christ. Ce qui est la réalité même. De l'événement du Christ, oui.
Il ne faut pas dire aussi dans la création, tout simplement.
Alors, à quoi ça vous fait penser? Allez-y.
Je ne l'ai pas exactement. Enfin, je l'ai en tête, mais je ne connais pas la référence exacte. C'est le passage où il dit ils n'ont pas reconnu Dieu par ses œuvres et ils ont adoré les œuvres.
Romains 1.
Oui.
Voilà. Oui. C'est exact. Merci. Donc, il y a. Effectivement, la sagesse de Dieu, d'une certaine manière, est aussi ici la création, je suis d'accord. Parce que y a un rapport évident ici avec ce que Paul dira, d'ailleurs c'est marqué en référence sur le côté de la Bible, Romains 1, 19, 20 et suivant. Paul dit effectivement en Romains 1 que les hommes n'ont pas reconnu Dieu ils se sont arrêtés à la créature au lieu de s'intéresser au créateur. Ils n'ont pas su aller au-delà de la créature et arriver jusqu'au créateur. Alors, en Romains 1, C'est dans un cadre polémique classique. Et c'est peut-être aussi ce qui inspire ce passage ici. C'est la polémique anti-païenne qui existe traditionnellement chez les Juifs. Vous savez que dans le monde païen, il y a effectivement toute une tradition de diviniser la nature. Et il y a donc une polémique qu'on trouve déjà dans le livre de la Sagesse, justement, très marquante dans le livre de la Sagesse, qui signale que cette nature est créée, et qu'au-delà du créé, il faut voir le créateur. Et alors, c'est les Romains 18, 31, la fin du chapitre 1 de Romains, est une polémique anti-païenne, nettement inspirée à mon avis du livre de la Sagesse. Alors on dira, oui, mais le livre de la Sagesse existait-il déjà à l'époque, etc. Moi, je ne me pose pas les choses comme ça. Je dis, quand je regarde, je me dis, c'est vraiment les mêmes termes, souvent c'est la même manière de faire. Donc, à mon avis, inspiré du livre de la Sagesse qui devait déjà être constitué, exister, à mes yeux. Bon, et c'est donc une polémique tout à fait classique, et dont, que Paul reprend au début de l'Épître aux Romains. Et il est possible qu'effectivement, en 1 Corinthiens, il y a quelque chose un peu du même genre. Alors, ça ne sera plus développé en Romains, qui à mon avis est Romain postérieur à 1 Corinthiens, mais c'est une polémique classique de la tradition juive, une polémique anti-païenne. Mais je pense encore une fois qu'au-delà de la création, il y a aussi, encore une fois, c'est pas où le Christ, ou le, c'est les deux d'une certaine manière, à travers, ils n'ont pas reconnu Dieu. Or, la sagesse, dans la tradition, cette tradition païenne, c'est un mode de connaissance. Donc en fait, c'est une connaissance infirme. Donc le monde par le moyen de la sagesse et sa logique, son logos à lui, eh bien ce logos à lui n'atteint pas la profondeur et la réalité du logos, finalement, avec un grand L. Et ayant ainsi développé la logique du monde, Paul peut maintenant développer la logique divine. Il a plu à Dieu. C'est un choix, de sauver les croyants par la folie du message. Alors, encore une fois, les croyants sont ceux qui entrent, justement, qui ont accepté cette folie du message pour entrer dans le plan de Dieu. C'est très important, ce que dit Paul là. Mais bien évidemment, le message n'est pas si fou que ça. Il a sa logique, il a sa justification. Mais c'est vrai qu'il est a priori fou. Et Paul va dire, quelle que soit un peu notre situation dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux grands camps, si j'ose dire. Le camp des Grecs et le camp des Juifs. Bon, c'est comme ça que le monde se divise, dans son optique. Et là, il a toujours, dans son livre sur Paul de Tarse, Matthew O'Connor montre combien il participe pleinement de ces deux traditions. Mais pour lui, elles sont quand même, c'est quand même deux blocs qui peuvent s'affronter. Et c'est vrai que cette logique, encore une fois, du message chrétien, elle est donc, Paul va dire scandale et folie. Les mots ne sont pas choisis par hasard. Là, c'est intéressant parce qu'il va encore, il va entrer dans un développement là qui va préciser un peu la logique de chaque camp et la logique du monde. La logique du monde, donc, c'est la logique à la fois des Grecs et des Juifs. Or, c'est pas tout à fait la même. Alors, il nous dit, les Juifs demandent des signes et les Grecs sont en quête de sagesse. C'est penser à l'Évangile. Très souvent, les Juifs disent, quel signe nous donnes-tu que montre-nous un signe. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de très prégnant dans la tradition juive, c'est le faire, le poyaïn en grec. Faire. C'est très très présent. L'œuvre. Il ne faut pas caricaturer non plus le judaïsme en disant que c'est simplement une religion des bonnes actions. Ça n'a rien à voir. ça traînait dans la pensée chrétienne, mais c'est faux. Mais c'est vrai que les Juifs demandent une réalisation concrète. Quel signe vas-tu nous donner que... Alors, je vous donne le signe de Jonas. Ah oui, ça ne répond pas vraiment à la question, parce que... bon. Donc, il y a un problème, effectivement. Il y a une réalité du monde juif qui demande des signes. Et la folie, vous l'avez juste ou toujours dans ce passage de Actes 17. Ouais, tu déraisonnes, Paul. Lorsque Paul essaye de faire un discours, là, à l'aéropage... ah là là, n'importe quoi. Bon, on t'entendra dessus d'autres fois. Bon, c'est vraiment le. Ça ne tient pas debout. En particulier, ce qui ne tient pas debout, c'est la résurrection. Alors, c'est pas exactement la même chose qui ne tient pas debout dans les deux logiques juives et grecques. Ce qui ne tient pas debout dans la logique grecque, c'est la résurrection, en particulier la résurrection des corps. Justement, ce réalisme ne tient pas debout, dont j'ai parlé. Ce qui ne tient pas debout dans la tradition juive, c'est pas la résurrection, ils y croient depuis Maccabée 12, c'est comme ça, 11 ou 12, je sais plus. Bon, c'est déjà testé là. Mais ce à quoi ils ne croient pas, et on va y revenir, c'est la résurrection de celui qui a été crucifié. C'est autre chose, on n'est pas du tout... Et vous voyez, donc du coup, c'est pas une folie pour les juifs, la résurrection. Mais c'est un scandale. Tel que Paul la présente, parce que c'est la résurrection du crucifié. Je crois que... je trouve encore ce passage tout à fait étonnant, parce que, à travers quelques mots, le mot folie et le mot sagesse, à travers le mot scandale et le mot folie, il campe parfaitement les camps.
Justement.
Oui.
Quand vous dites la résurrection du crucifié, c'est du Messie crucifié.
Oui, absolument.
Oui,
oui, oui. Oui. Du Messie crucifié, absolument.
C'est scandaleux pour eux, c'est que le Messie...
C'est soit crucifié. J'ai été trop rapide, je confesse ma faute. J'espère qu'elle est pardonnée. Voilà, donc... voilà l'enjeu.